Madame, Monsieur, bonjour. Confrontée aux délocalisations d'entreprises, à la montée du chômage et depuis 2008 à la crise économique la plus grave depuis les années 1930, de nombreux Français et beaucoup d'Européens se sentent fragilisés par la mondialisation, un processus à l'œuvre depuis 3 décennies environ et qui conduit à l'émergence d'un nouvel ordre économique mondial. Les citoyens ont parfois le sentiment que les États sont dépassés. Ils s'interrogent sur les raisons de cette crise, qui s'est à leurs yeux diffusée très rapidement en raison des interdépendances croissantes des économies. Actuellement, certains économistes et responsables politiques, nous avons pu le constater lors de la campagne pour l'élection présidentielle en France, dénoncent les effets de la mondialisation et certains vont jusqu'à prôner une démondialisation. Pour nous éclairer sur ces questions et nous aider à comprendre les enjeux et défis soulevés par la mondialisation, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à Canal Académie M. Michel Pébrot, académicien de l'Académie des sciences morales et politiques, personnalité éminente du monde de l'économie et de la finance, ancien président de BNP Paribas, dont il est aujourd'hui président d'honneur. Monsieur Pébrot, bonjour et merci bonjour. D'avoir répondu à notre invitation. Avant de recueillir votre point de vue, je souhaite rappeler à nos auditeurs que vous avez eu une brillante carrière dans l'administration, puis dans la banque, polytechnicien et diplômé de l'ENA, inspecteur général honoraire des finances. Vous avez passé 15 ans au ministère de l'économie et des finances. Vous avez quitté l'administration pour la banque et avez dirigé la privatisation de 2 établissements financiers, le Crédit Commercial de France, le CCF, dont vous avez été président directeur général de 1987 à 1993, et la Banque Nationale de Paris, que vous avez dirigée de 1993 à 2000 et dont vous avez réalisé la fusion avec Paribas, faisant de cet ensemble un des leaders mondiaux de ce secteur. Président de BNP Paribas de 2003 à 2011, vous avez été une figure de premier plan de la finance internationale et parallèlement, vous avez développé des activités d'enseignement. Vous présidez actuellement le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po Paris, depuis 1988. Vous avez publié plusieurs ouvrages de référence sur la politique économique de la France, ainsi que 2 ouvrages sur la dette, je crois, « La France face à sa dette » en 2006 et « C'est possible, voici comment » en 2007. Vous avez été élu en novembre 2007, donc membre de l'Académie des sciences morales et politiques, au fauteuil laissé vacant par Pierre Tabatoni. Je recommande particulièrement à nos auditeurs d'écouter sur Canal Académie votre communication devant donc l'Académie des sciences morales et politiques, communication prononcée le 27 juin 2011, donc l'année dernière, et intitulée « La poursuite de la mondialisation, nécessité et contrainte ». Vous y traitez de la mondialisation économique et financière, appelée en anglais globalisation, et vous expliquez pourquoi la poursuite de la mondialisation est aujourd'hui indispensable. Dans cette communication, vous soulignez aussi qu'elle implique la mise en place de régulation et de coordination au niveau international. Je recommande aussi à nos auditeurs, sur ce thème d'actualité, 3 publications récentes de la documentation française qu'ils pourront retrouver dans notre chronique avec cette institution. Je les cite, « La France mondialisée » dans la collection Cahiers français, « Mondialisation, un mythe ?» point d'interrogation dans la collection Problèmes économiques et « Parlons mondialisation en 30 questions » d'Eddie Fougier dans la collection Doc en poche. Monsieur Pébrot, je reviens vers vous et je voulais vous poser 3 questions. Tout d'abord, que signifie pour vous le terme de mondialisation et quelles sont ses implications ?
Eh bien, la mondialisation, c'est ce grand phénomène qui conduit aujourd'hui au développement des échanges internationaux dans tous les domaines. Je crois que l'une des grandes caractéristiques du monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale a été de considérer que pour que la paix soit assurée à l'avenir dans le monde, pour que ne se rééditent pas les enchaînements qui avaient conduit à la Première puis à la Deuxième Guerre mondiale, il était indispensable de développer deux grands axes de mondialisation. Le premier qui était la libération des échanges dans tous les domaines, des échanges de biens, de services, de capitaux, la libre circulation des personnes. Et puis d'un autre côté, la coopération sur le plan international, c'est-à-dire la mise en œuvre d'institutions, notamment, qui soient de nature à assurer, si je puis dire, des échanges cette fois-ci entre les États pour traiter les différents problèmes qui étaient susceptibles de se poser. Alors, ce deuxième facteur, c'est-à-dire ce facteur institutionnel de création de la coopération, a eu comme principale manifestation la création de l'Organisation des Nations Unies, qui, si je puis dire, en est l'expression la plus forte. Mais il y en a de multiples autres tout autour des Nations Unies et des échelons régionaux de cette coopération internationale se sont mis en place. Et puis, en ce qui concerne le développement des échanges, je dirais que là, la forme la plus forte a été la tentative d'abord dans un premier temps de création d'une organisation mondiale du commerce qui avait échoué d'ailleurs au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui avait débouché sur ce que l'on a appelé le GATT, l'accord général d'emprunt sur le commerce et les tarifs douaniers, et qui a donné lieu cette fois-ci dans les années 90 à la création de l'Organisation mondiale du commerce. Ce double mouvement à la fois de libération des échanges et de création d'une coopération au niveau international, et donc un jour ou l'autre de politiques internationales, c'est ce qui représente à mes yeux la mondialisation. Je préfère le terme de globalisation, bien qu'il apparaisse comme un néologisme anglo-saxon en effet, ou britannique, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une réalité qui n'est plus seulement, si je puis dire, une réalité correspondante à des volontés politiques, faire en sorte que les échanges se développent sur l'ensemble de la planète et que la coopération internationale existe à l'échelle de la planète, mais qui correspond aussi à des évolutions techniques. Les progrès des transports dans tous les domaines font qu'on n'est aujourd'hui pas plus éloigné d'un habitant à l'autre bout de la planète qu'on ne l'était d'un habitant à l'autre bout de la France au début du 19e siècle. Et puis, quant au coût des transports, le coût des transports de marchandises, notamment par voie de bateau, a baissé à des niveaux tels que des marchandises qui viennent de l'autre bout de la planète ne coûtent guère plus cher que des marchandises fabriquées à nos portes. Le coût du transport ne compte pas. Mais il y a surtout alors les nouvelles technologies de l'information qui ont créé une proximité des hommes et des femmes à l'échelle de la planète. On parle aujourd'hui aussi facilement à quelqu'un à l'autre bout du monde qu'on parlait hier à son voisin. Donc il y a un phénomène, en quelque sorte, de création d'un monde global qui englobe l'intégralité de notre planète et qui va bien au-delà de ce qui avait pu être imaginé par les politiques au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour assurer la paix dans le monde. Alors c'est cela, à mon avis, la mondialisation. La mondialisation est, il faut bien le dire, le principal moteur du développement économique et donc du progrès social. Le progrès extraordinaire qu'ont connu les pays dits avancés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui fait que nous avons des niveaux de vie, les plus pauvres des habitants des pays dits avancés ont des niveaux de vie sans commune mesure avec ce qui était le niveau de vie moyen d'un Français moyen à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce formidable développement économique, ce formidable progrès social sont la conséquence directe du développement des échanges. Ce développement des échanges s'est fait d'abord dans un cadre relativement limité qui était celui des pays avancés. Les autres pays y contribuant peu. Et il s'est fait dans le cadre, sauf, si je puis dire, pour d'une part fournir des matières premières ou des produits agricoles et d'autre part acheter des biens fabriqués par les pays avancés, mais dans un échange que certains qualifiaient d'échange inégal. Je dis bien certains qualifiaient d'échange inégal. Le grand phénomène qui se produit depuis une trentaine d'années, c'est que les échanges s'établissent progressivement pour mettre en relation l'ensemble des pays du monde avec des capacités nouvelles, des pays dits du tiers-monde, devenus pays émergents, à concurrencer les pays industrialisés dans leur production d'abord industrielle, ensuite de plus en plus sophistiquées, y compris d'un certain nombre de services. Et donc, le développement économique et le progrès social ont eu comme moteur, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'abord dans les pays avancés et désormais à l'échelle de la planète, ce développement des échanges. Et ce développement des échanges me semble être aujourd'hui le principal ferment de développement économique pour notre planète dans les années à venir. Vous savez, l'une des grandes leçons de l'économie, c'est que le progrès économique est la conséquence du développement de l'échange et de la spécialisation de chacun dans ce qu'il fait le mieux ou le moins mal. Ce qui est vrai au niveau de la nation est vrai, bien entendu, au niveau international. Et donc, il ne fait pas de doute qu'une planète dans laquelle les 7 milliards d'habitants commerceraient entre eux comme aujourd'hui commercent entre eux, échangent entre eux, les Français ou les Européens, disons, à l'intérieur de l'espace européen, serait une planète dont le niveau de vie serait profondément modifié. L'échange a permis de sortir de l'état d'extrême pauvreté en quelques années des centaines de millions d'Asiatiques que l'absence d'échange avait laissé dans cet état d'extrême pauvreté.
Alors, au-delà de la crise des subprimes qui a surgi en 2007 et de la crise de la dette souveraine en Europe que nous connaissons encore, dans quelle mesure et comment la finance mondiale devrait, à votre avis, être régulée pour permettre un fonctionnement harmonieux des échanges de biens, de services et de capitaux ?
Dans ce phénomène de globalisation, de mondialisation que nous évoquions tout à l'heure, il y a un secteur d'activité économique qui a été, non pas en avance sur tous les autres, mais qui a été, si je puis dire, à la pointe du progrès, du développement des échanges internationaux, qui a été le monde financier. Il y a aujourd'hui, en effet, une sphère financière qui existe à l'échelle mondiale, et ceci pour une raison simple. Le développement des échanges de biens industriels, le développement des échanges de services à l'échelle internationale suppose qu'existe un système financier qui soit capable de faire communiquer, en quelque sorte, les différents espaces monétaires les uns avec les autres. Des banques sont nécessaires pour assurer les échanges commerciaux parce qu'il faut que, en quelque sorte, un producteur et un acheteur qui ne se connaissent pas et qui vivent très éloignés l'un de l'autre, et des intermédiaires qui assurent leur échange sur le plan financier et qui sécurisent cet échange parce qu'ils ont vocation, eux, à se connaître. Les échanges bancaires internationaux constituent le circuit qui permet l'échange de biens et de services à l'échelle mondiale. Donc, la mondialisation du système financier a été une condition nécessaire du développement des échanges internationaux. Et au fur et à mesure que ces échanges internationaux prennent une plus grande dimension géographique, le phénomène de la globalisation que j'indiquais tout à l'heure, il faut qu'ils reposent sur un système bancaire international qui permette d'en assurer le financement et la sécurité financière. Les systèmes bancaires, les activités financières, dans tous les pays du monde, nécessitent un certain nombre de régulations. C'est la leçon de l'histoire. Le métier bancaire est un métier entrepreneurial comme les autres. Comme les autres métiers entrepreneuriaux, il peut connaître les heurts et les malheurs du cycle économique. Mais lorsque les heurts et les malheurs du cycle économique font que des entreprises connaissent des difficultés dans les périodes basses du cycle, voire des faillites, il ne fait pas de doute que lorsque des banques connaissent des difficultés, voire des faillites, les inconvénients pour le reste de l'économie sont beaucoup plus graves que pour une entreprise d'un autre secteur d'activité économique. Et c'est ce qui explique que très tôt, les États aient considéré que les activités bancaires et financières nécessitaient régulation. Ces régulations ont donc été établies à l'échelle de chacun des pays. La mondialisation implique bien sûr une certaine homogénéité de cette surveillance à l'échelle internationale. Les États ne s'y sont pas trompés. Dès le début des années 80, une réflexion internationale a été engagée pour savoir de quelle façon on pouvait assurer une certaine homogénéité de régulation, de sécurité du système bancaire à l'échelle mondiale. Ces réflexions ont été engagées au niveau international dans un cadre assez informel, puisqu'il s'agissait du cadre de la Banque des règlements internationaux, qui est une banque qui avait une activité assez limitée. C'est une banque qui a été créée dans l'entre-deux-guerres et dont la vocation avait un peu disparu, mais dont la particularité était d'avoir comme administrateurs les gouverneurs des banques centrales des principaux pays avancés, industrialisés de l'époque. Et donc, se réunissant là, les intéressés se sont dit on pourrait réfléchir ensemble, dans le cadre d'un groupe de travail, aux modalités, si je puis dire, d'une régulation que nous maintrions en commun, chacun pour ce qui nous concerne dans notre pays, pour assurer la sécurité du système bancaire dans les relations internationales et pour faire en sorte, en quelque sorte, que cette espèce de réseau que constituait le système bancaire international pour le développement des échanges internationaux soit aussi sûr que possible. Et donc, le comité de Bâle, dont on parle beaucoup dans la presse, est né à l'époque. Il a défini à l'époque les premières règles, si je puis dire, communément acceptées en matière de sécurité bancaire, les ratios de solvabilité. C'est-à-dire, il a défini à l'époque quel était le volume du capital qui paraissait nécessaire pour assurer la sécurité d'une banque opérant à l'échelle nationale ou internationale, quel volume de capital en proportion, si je puis dire, des risques pris par cette banque. Et ces ratios de solvabilité, donc, qui rapportent le volume du capital au volume maximum d'actifs qui peuvent être financés à partir de ce capital, que l'on a appelé les ratios Cook. M. Cook était le président du groupe de travail correspondant du premier comité de Bâle, c'était le sous-gouverneur de la Banque d'Angleterre à l'époque. Et ces ratios de solvabilité sont le point de départ d'un mode de régulation internationale. Alors, entendons-nous, mode de régulation internationale est un mot qui va au-delà de la réalité. En effet, ces régulateurs se sont mis d'accord, d'abord dans le cadre des accords qui ont donné lieu à la création des ratios Cook, en 1985-86, puis, dans une deuxième étape, dans le cadre d'un accord qu'on a appelé l'accord de Bâle II, qui a pris forme à la fin des années 90 et qui se mettait en place au début des années 2000, ils se sont mis d'accord sur des bonnes pratiques de régulation internationale. Que considérons-nous être les règles à appliquer pour assurer la sécurité du système bancaire international à partir de règles pays par pays. Et donc, ces règles ne sont internationales que pour autant que chacun des régulateurs fait en sorte ensuite que l'État dans lequel il opère adopte ces règles. Voilà. Donc, c'est le point de départ de ce système. Il ne fait pas de doute que la crise qui vient de se dérouler a mis en évidence, d'une part, la nécessité de telles règles, et d'autre part, l'utilité de l'application de ces règles au niveau mondial. Il faut savoir en effet que les règles de Bâle II n'étaient pas appliquées partout dans le monde, et en particulier n'étaient pas appliquées aux États-Unis, qui ont été, vous le savez, le point de départ de la crise bancaire internationale que nous avons connue. Mais en tout état de cause, que ces règles sont apparues à l'expérience insuffisantes, puisque la crise bancaire internationale a été assez largement une crise de liquidité, alors que ces règles, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, partant des ratios de solvabilité, étaient des règles visant à assurer d'abord la solvabilité. Donc le comité de Bâle a été chargé par le groupe des 20, ça a été même l'une des premières décisions du groupe des 20, que de charger le comité de Bâle et aussi d'ailleurs un conseil de stabilité financière qui a été créé à cet effet, de réfléchir pour le comité de Bâle à une amélioration, un renforcement des règles à déterminer sur le plan international pour assurer la stabilité financière au niveau, si je puis dire, des microéconomiques du fonctionnement des systèmes bancaires. Cependant que le Conseil de stabilité financière doit faire la même chose sur le plan macroéconomique pour définir des règles adaptées. Reste ensuite à appliquer ces règles. Et c'est là que les choses sont plus délicates. L'Union européenne a décidé d'ores et déjà d'appliquer les règles du comité de Bâle, mais les États-Unis ont de leur côté pris un certain nombre de décisions dans le cadre d'une législation qui a été votée très rapidement aux États-Unis, qui est la législation Dodd-Frank, et on ne sait pas aujourd'hui si ces règles seront appliquées. Mais enfin, pour revenir à votre question qui est fondamentale, oui, il est nécessaire d'avoir une régulation à l'échelle internationale. Simplement, en l'état actuel des choses, il n'existe pas d'organisation internationale à laquelle ait été délégué un pouvoir qui permettrait de fixer des règles à l'échelle mondiale. Et donc, il y a une concertation entre les régulateurs internationaux pour essayer de dégager des règles qui ensuite seront appliquées, en quelque sorte pays par pays, seront appliquées ou ne seront pas appliquées, pays par pays, et qui assureront la stabilité financière. Ce qui est certain, c'est que l'Union européenne, pour ce qui la concerne, attache beaucoup d'importance à cela, puisque, en ce qui la concerne, elle a d'ores et déjà mis en œuvre plusieurs des règles qui ont été définies par le comité de Bâle à la suite de la crise financière.
Une troisième question porte sur la France. Comment notre pays, la France, peut-il s'adapter aux contraintes de la mondialisation pour en exploiter les opportunités? Vous parliez tout à l'heure de spécialisation. Et quels sont les atouts et les handicaps de la France dans cette mondialisation?
Je crois que notre pays peut s'adapter aux contraintes de la mondialisation pour en exploiter les opportunités, puisque un grand nombre d'entreprises françaises, je dirais la plupart des entreprises françaises, ont au cours des 20 dernières années démontré la capacité des Français à s'adapter aux contraintes de la mondialisation pour en saisir les opportunités. En effet, dans un assez grand nombre de secteurs d'activité, notre pays a dégagé au cours des 20 dernières années une ou des entreprises qui figurent parmi les grands acteurs de l'échange international au meilleur niveau de compétitivité, soit au niveau mondial. C'est le cas dans beaucoup de secteurs d'activité qui vont de la publicité pour prendre le plus immatériel jusqu'à l'énergie, pour prendre quelque chose de très solide et de l'économie réelle. Dans ces différents secteurs, des leaders français sont devenus des leaders européens ou mondiaux. Donc les Français ont la capacité d'exploiter ces atouts. Pour que notre pays exploite ses atouts, il faut en effet qu'il s'adapte aux contraintes. Et la principale contrainte, c'est la compétitivité. Nous devons, me semble-t-il, assurer la compétitivité de notre territoire national et la compétitivité du travail français par rapport au travail de ceux qui ont, en quelque sorte, pardon d'utiliser une terminologie un peu technique, les mêmes avantages comparatifs que la France. On ne peut pas assurer la compétitivité prix du travail d'un pays avancé par rapport à un pays émergent. Les écarts sont trop grands. En revanche, on doit assurer la compétitivité prix d'un pays avancé par rapport aux autres pays avancés. Et donc, nous devons à la fois assurer la compétitivité de notre territoire national pour que des activités viennent s'implanter en France plutôt qu'en Allemagne, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ou au Japon. Et nous devons adapter la compétitivité du travail en France de façon que le travail français soit utilisé en France plutôt que d'être utilisé, enfin de préférence, au travail que pourraient fournir dans leur pays tel ou tel de nos amis en Europe ou dans les autres pays avancés. Ces conditions sont des conditions indispensables. Et je crois que ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que si nous savons les exploiter, alors la France a des avantages comparatifs considérables pour, en quelque sorte, à la fois développer notre territoire national et développer l'emploi dans notre pays. Ces avantages comparatifs sont bien connus et sont connus du monde entier. Ce sont ceux qui font que les gens du monde entier ont plaisir à venir en France et que tout autour de nous, on a l'impression que vivre en France, Dieu même considère que c'est le meilleur endroit sur la planète pour vivre. Ces avantages comparatifs sont très importants. Il faut que nous sachions les exploiter.
Monsieur Pébrot, je vous remercie pour cet éclairage. J'invite donc nos auditeurs à réécouter vos émissions sur Canal Académie, notamment votre communication du 27 juin 2011 que j'évoquais, ainsi que votre chronique régulière sur la science-fiction que j'ai écoutée avec beaucoup d'intérêt. Et c'est un sujet dont vous êtes aussi spécialiste.
Merci.
Merci, monsieur le président.